les podcasts de Radio Vatican.
La communion anglicane est-elle de nouveau au bord de l'implosion? Réunis à Canterbury, les primats de l'Église anglicane ont pris mardi 3 octobre 2017 des mesures contre l'Église épiscopale d'Écosse. Pendant 3 ans, ses membres ne pourront plus ni participer aux décisions sur la doctrine ou la liturgie, ni représenter l'Église anglicane dans les assemblées écuméniques. Tout comme sa consœur américaine il y a un an, l'Église épiscopale d'Écosse paye son choix en juin dernier de retirer de sa doctrine la phrase stipulant que le mariage est une union entre un homme et une femme, une décision qui ouvre la voie à des mariages entre personnes homosexuelles et qui irrite certaines églises anglicanes, notamment en Afrique. Mais malgré ces tensions, Rémi Bettemont, professeur d'histoire et civilisation britannique à l'université Paris 8, écarte l'hypothèse d'un schisme.
Je dirais à mon avis que le moment du danger maximal est passé. Ça fait à peu près 200 ans qu'on parle de la fin de l'Église anglicane, qu'il va y avoir un schisme terrible et que ça sera terminé, etc. Bon, elle est toujours là. Sur cette question, on a parlé aussi depuis essentiellement 2000, enfin début des années 2000, d'un schisme inévitable, et c'est la fin de la communion. Bon, depuis la réunion des primats 2016, en fait, on voit qu'il y a un certain apaisement. Alors, les positions restent irréconciliables, ça c'est tout à fait vrai. Et il y a un certain nombre de provinces, enfin surtout deux en Afrique, très violemment opposées aux provinces qui se libéralisent sur les questions d'homosexualité. Mais en même temps, le désir de rester ensemble est vraiment très affirmé. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas d'accord du tout, au point même où certains dans la communion se traitent d'hérétiques, d'apostats, de tout ce qu'on veut. Mais en même temps, il n'est pas question de se séparer.
Parmi les signes de cet apaisement dont vous parlez, vous insistez notamment sur le vocabulaire utilisé pour qualifier les décisions à l'encontre des églises américaines et écossaises.
Les primats avaient parlé non pas de sanctions, mais de conséquences à tirer du fait que l'Église américaine avait pris une décision qui contrevenait à... C'est là où ça devient compliqué, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Ce que certains appelleraient la position majoritaire dans la communion anglicane et ce que d'autres appelleraient tout court la position de la communion anglicane. Ce qui s'est passé là, vis-à-vis de l'Église écossaise, c'est exactement la même chose. De nouveau, le terme employé n'est pas sanction, mais conséquence. Conséquence acceptée de façon unanime, c'est-à-dire que l'actuel primat écossais a lui aussi donc accepté le fait que cette décision a des conséquences. Dire que tout le monde est d'accord pour reconnaître que voilà, il y a un problème et donc tout problème a des conséquences, mais voilà, c'est un problème de famille et c'est pas pour ça qu'on ne va plus être de la même famille. C'est vraiment l'attitude quasi unanime, je dirais, avec quand même une frange un peu extrémiste. En même temps, ils n'ont jamais parlé de schisme. Hein.
Quel est le poids de cette frange que l'on dit plus conservatrice, justement ?
Il y avait deux primats qui avaient dit qu'ils ne viendraient pas en Afrique, donc parce que les Américains sont là, donc c'est déjà trop. Quoi. Bon, mais ils sont quand même extrêmement isolés dans la communion anglicane. En plus, il y a eu une déclaration assez, quand même, qui a fait du bruit de la part du secrétaire général de la communion anglicane, qui est lui-même africain, et qui disait que la crise était attisée en Afrique par une minorité conservatrice nord-américaine qui soufflait sur les braises à coups de millions de dollars. Ça n'a pas plu du tout aux primats les plus virulents sur la question en Afrique, mais le secrétaire général a justement réaffirmé là cette semaine en disant qu'il confirmait ce qu'il avait dit et que les faits montraient que ce qu'il disait était vrai.
De l'autre côté, la frange dite plus libérale se limite-t-elle aux églises épiscopales des États-Unis et d'Écosse ?
Longtemps, j'ai envie de dire le mouton noir du point de vue de la plupart des primats de la communion anglicane, c'était l'église épiscopalienne, parce qu'elle ne faisait rien comme les autres. Elle consacre un évêque gay, et puis ensuite elle autorise la bénédiction des unions, et puis ensuite elle change sa définition du mariage, etc. etc. Maintenant, il y en a deux. Il y a l'Écosse qui fait la même chose. Et puis, il y a deux autres églises, j'ai envie de dire, qui sont dans la queue, si on pourrait dire. L'église anglicane du Canada, qui a engagé le processus pour aller aussi vers une définition inclusive du mariage. Et la décision doit être prise au prochain synode canadien qui sera en 2019, je crois. En Nouvelle-Zélande, il y a une proposition qui a été faite, alors qui est un petit peu différente, parce que là, il ne s'agit pas de vraiment changer la définition canonique du mariage, mais d'autoriser une liturgie de bénédiction d'un mariage civil pour un couple de même sexe. Ça a été refusé par le dernier synode général de l'Église néo-zélandaise, mais de toute évidence, le débat n'est pas clos, et donc ça va revenir au prochain synode. Voilà, donc même si ce n'est pas certain, il est quand même probable que le nombre d'églises anglicanes qui suivent le mouvement initié par l'Église américaine soit de plus en plus important.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.